Salut à tous et bienvenue sur Round Covers. Aujourd'hui, troisième partie de notre trilogie consacrée au label Cliffhanger.
Cliffhanger, ouais.
Et pour m'accompagner, comme d'habitude, Landry est avec moi. Salut Landry.
Salut à tous.
Alors aujourd'hui, Crimson. Ça nous tient bien à cœur, Crimson. Ouais, hein.
Ouais. Crimson, en ce qui me concerne, c'est un peu le joyau de la couronne des séries Cliffhanger. Hein, c'est-à-dire celle que personne n'attendait à l'époque. Et qui pourtant s'est révélée être la meilleure.
Alors, avant d'en parler, tu vas nous parler justement d'un petit peu de l'histoire.
Bon, alors, l'histoire, je vais être rapide parce que il y a un omnibus qui est sorti, il faut le lire, donc je vais essayer de pas trop vous dévoiler l'intrigue. En gros, le jeune Alex Elder se retrouve agressé par une bande de vampires dans Central Park et il devient lui-même un vampire et se retrouve finalement tiraillé entre sa nature humaine avec ses problèmes d'adolescent et puis sa nature vampiresque parce qu'on lui annonce qu'en plus d'être un vampire, il est l'élu de tous les vampires. Voilà. On est dans du Buffy presque vampire, c'était l'époque.
C'est du Buffy et du Matrix en même temps.
Ah, c'est la totale, c'est la totale. Ouais. Il est habillé dans une tenue très cuir, très. Ouais. Voilà. Dont d'ailleurs il y a une petite vanne là-dessus, mais je vous laisse la découvrir sur l'habit en cuir. Voilà, c'est une série. Je sais pas, c'est.
Pour moi, c'est mythique. Hein.
Voilà. Ouais. C'est le personnage est extrêmement humain. C'est assez paradoxal pour un vampire. Très préoccupé par les autres, la petite amie, la famille. Il y a un rapport avec la famille qui est très intéressant. C'est vraiment une série d'une finesse d'écriture. Alors, le scénar est de Brian Augustine. Ouais. Les dessins sont d'Humberto Ramos. Et alors, Humberto Ramos, quel dessinateur
hein ?
Toujours en activité aujourd'hui, contrairement à nos deux amis précédents deux émissions.
Campbell,
voilà. Qui, comment dire, vivent une petite retraite dorée.
En faisant quelques covers.
Voilà. Et quelques comics quand même aussi pour Madurera.
Madurera, oui. Mais il avait besoin un petit peu de thunes après son fiasco là, de son studio, je pense.
Je pense. Mais une chose est certaine, pour revenir à Ramos, parce que c'est lui qui nous occupe le plus, c'est que c'est un dessinateur qui aujourd'hui est sous contrat chez Marvel depuis des années, qui est hyper régulier dans ce qu'il produit, dans ses dessins, qui même, on va dire, est un vendeur. Hein. C'est-à-dire quand une série a un petit coup de mou, 5-6 épisodes de Ramos, les ventes reprennent, il faut être clair. Ça fait repartir la série. C'est vraiment l'auteur, le dessinateur. C'était quasiment un de ses premiers boulots. Je veux dire,
on
il avait...
Alors,
il avait fait Deviate pour Wildstorm, c'est-à-dire les méchants Gen 13, les anti-Gen 13. Enfin. Et la série Deviate avait commencé avec lui, je crois qu'au 6e ou 8e numéro, il est parti justement pour faire Crimson. Et la série Deviate a fait pouf.
Voilà.
Elle a perdu des ventes très rapidement, elle a disparu. Qui se souvient de Deviate aujourd'hui ?
Nous,
oui, voilà, mais bon. qui s'en souvient, ça n'a pas marqué grand monde. Mais par contre, ce Crimson, lui. Dans ce label Cliffhanger, c'est un incontournable. D'ailleurs, pour une raison très simple, hein, comme il y a le numéro.
La publication, quand Madurera avec son Battle Chasers faisait 8 numéros et Campbell en faisait 7 en 3 ans et demi, et Ramos en a fait 24. Et pourtant, Ramos n'a jamais été une star des comics, alors que Madurera et Campbell le sont, encore aujourd'hui.
Ouais, alors ça peut s'expliquer quelque part. Ramos, c'est pas un cover artiste. Hein. Et quelque part, un cover artiste, c'est ce qu'on découvre en premier sur une BD, sur un comics. Donc, ça joue aussi beaucoup. En même temps, la différence aussi, c'est que Ramos, je pense, dans sa façon de travailler, c'est un bûcheur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est pas forcément sous les feux des sunlight. C'est vraiment. Un dessinateur à l'ancienne, il y a 24 pages à rendre pour le mois prochain, les 24 pages sont rendues. Ça, c'est quelque chose...
C'est un mec, moi je l'ai rencontré une fois, Ramos, c'est un mec super sympa. Je suis arrivé avec mes 24 numéros de Crimson, j'ai dit tu peux bien me les dédicacer, il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème, quand je t'appelle, allez, tac tac, c'est bon, paye-moi une bière, et puis le lendemain on s'est recroisé, ça va mon pote, machin. C'est un mec hyper accessible, en tout cas à l'époque. Ça fait un moment, mais non, maintenant, je ne sais pas trop. Mais c'est pas une star.
C'est un
voilà.
C'est
voilà. Moi, il y a 2 ans, j'ai croisé Madureira à la PCE. Il était complètement inaccessible. Alors que je suis désolé, Madureira. Bah, il fait rien. Enfin,
Moi, j'ai tendance à comparer Ramos à Jack Kirby. C'est-à-dire, c'est des dessinateurs extrêmement talentueux, mais qui produisent. Voilà, qui produisent de la planche de BD. Kirby, c'est quelqu'un qui gérait 4 pages.
Déjà, les mecs vont dire de quoi tu compares
Kirby. Bah, moi, je le compare Kirby parce que la régularité, à un moment donné, dans la bande dessinée, c'est surtout dans le comics, c'est une règle de base. Si on veut que le lecteur suive une série, c'est ça. Crimson a démarré avec des ventes, sur mes souvenirs, plus faibles que Battle Chaser et Danger Girl, mais a progressé. Pourquoi ? Parce que dans le label Cliffhanger, c'était le seul rendez-vous régulier. Ouais. Et ça, quand on y réfléchit bien, voilà, si tu veux fidéliser un fan de comics d'il y a 20 ans, comme maintenant d'ailleurs, c'est le numéro doit sortir. Il y a une date, il y a des sollicitations, numéro sort. C'est comme ça.
On parle un peu de la structure. Allez, on va parler de la structure scénaristique un peu. Alors, moi, Crimson, de ce que je me rappelle, je l'ai lu quelques fois. C'est un des rares comics que je lis plusieurs fois, en fait. Donc, tu as le début qui est très simple, au final. Bon, alors, il se fait mordre par des vampires.
Voilà, c'est la scène d'exposition.
À l'époque où Buffy contre les vampires, ça battait son plein.
C'était ça. C'était la pleine mode des vampires, comme maintenant on est dans le zombie, quoi. Enfin,
Ça y est, t'as dit le mot qu'il fallait pas.
Vraiment,
j'en peux plus, moi.
C'est bien, mais c'est ça.
Et finalement, l'histoire se développe. T'as l'impression que ça va jamais finir, que ça part dans tous les sens. Et au final, à la fin, tout se rejoint. Tout est imbriqué.
Bah, on est sur du comics, à l'ancienne, hein, c'est-à-dire une scène d'exposition très rapide. Les enjeux vous sont expliqués en 2-3 numéros. Et puis après, c'est de l'aventure. On fouille la psychologie du personnage. Brian Augustin a beaucoup utilisé d'éléments issus des évangiles apocryphes, en particulier sur l'origine des vampires. Ouais. Et c'est très malin de sa part, parce que du coup, ça donne quand même une tessiture et une véracité au scénario. Et une profondeur. Y a de l'histoire, il y a des rebondissements, les personnages évoluent, et ça, c'est une des caractéristiques du comics. Alors, je vais encore citer un vieux, on est un peu dans la logique de ce que faisait Chris Claremont sur les X-Men, hein, c'est-à-dire le perso, je le prends d'une certaine façon, et je vous le rends 20 numéros plus tard, il a évolué. Ouais. Avec Exceldur, c'est un personnage qui, au départ, est un ado qui fugue et qui se fait mordre par des vampires. Et à l'arrivée, c'est un héros. Et ça...
On est un peu sur la structure d'un Peter Parker, en fait.
Il y a de ça. Il y a Peter Parker. Les influences sont multiples. Hein. Voilà. Du Buffy contre les vampires pour le côté un peu sérial, et puis avec des personnages assez simples. Très, très caricaturaux, mais du coup accessibles. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans la série. Des rebondissements, des péripéties. On est sur du Peter Parker.
Crimson, c'est quand même un melting pot générationnel.
Ouais.
C'est-à-dire que, comme tu as dit, il y a du Buffy, il y a du Matrix, il y a un gros clin d'œil à Matrix dans la scène du métro là, avec le sénateur. Ça n'aura échappé à personne à l'époque. Et puis voilà, moi je ne saurais que trop vous conseiller cette série.
On peut aussi voir un peu du Batman hein, dans le New York. Le New York de Crimson. Il est rempli de gargouilles. Forcément ça se passe la nuit. Hein. Ouais. Donc il est sombre, il y a tout ce côté. Je pense qu'un fan de comics ne peut pas passer à côté de cette série. Hein. J'ai pas mal d'amis qui ont acheté les omnibus d'ailleurs. Moi j'ai les vieilles VI de chez Semic achetées 24 francs, je me souviens très bien, au marchand de journaux. Enfin c'était vraiment quelque chose. Et c'était un rendez-vous parce que là encore l'édition française du coup comme ça par petites tranches de 2 épisodes tous les 2 mois. Si ça ne marchait pas au bout de 5-6 numéros, l'éditeur a arrêté, surtout Semic. Bon, ils ont fait l'intégralité de Crimson, c'est-à-dire les 24 numéros, au kiosque. Et ça, pour qu'une série arrive à le faire à cette époque-là, à la fin des années 90,
en France,
c'est assez rare.
Une série qui n'est pas mainstream, enfin,
oui.
Mainstream, mais une série qui ne vient pas de chez Marvel ou d'ici à l'époque,
C'est un exploit quand même, c'est un exploit qu'il faut souligner, hein, surtout aujourd'hui où bon, ça se consomme et c'est normal en anthologie, hein, ce genre de... Là, bon, c'est... Ce qui est très bien, hein, moi j'adore les anthologies, il faut pas. Mais bon, voilà, il y avait un différentiel de quelques mois entre la publication américaine et la publication française, et ça se vendait quasiment exactement comme à l'Amérique. Et ça, c'est quelque chose que peu de séries sont arrivées à reproduire, hein, voilà, dans les années.
Alors, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des épisodes de Noël.
Oui.
Parce que ça, c'est super cool.
Ben, c'est des épisodes qui ramènent énormément à la religion. Ouais. Hein. Et qui, bah, quelque part, sont, pour moi, alors, j'ai un peu un terme qui peut paraître bizarre dans ces épisodes de Noël-là, assez subversif, parce qu'au fond, c'est le vampire, élu certes, mais un vampire, une créature maléfique, qui fait part dialogue avec Dieu, créateur. C'est ça qui est intéressant dans cette série-là. Et puis c'est tout ce rapport. Et c'est une série qui est très très subversive. Je connais une personne qui théorise que le vampire est un personnage extrêmement, une figure extrêmement intéressante parce qu'elle, comment vous dire, elle échappe aux normes humaines. Le vampire, c'est un humain qui échappe à la norme humaine, ou qui peut faire appel au libertinage. D'ailleurs, Crimson, quelque part, il y a une esthétique qui peut amener à ça aussi. Et c'est très intéressant de se rendre compte que malgré tout, il y a un rapport à la religion qui est dans ces séries-là. Et c'est vrai que les épisodes de Noël, sur ce plan-là, sont très particuliers.
Relation, notamment dans les épisodes de Noël avec Satan, quoi.
Putain, oui.
C'est Satan, mais voilà, c'est...
Il y a une réflexion religieuse.
Puis quand on va rien vous dire, mais quand vous savez qui c'est la petite fille dans les épisodes de Noël, c'est...
Ouais, c'est passionnant. Ouais. Il y a un vrai jeu de pistes, voilà. Quand vous allez lire,
pas besoin d'être catholique ou
tout à fait.
Religion,
tout à fait.
Moi, je suis complètement.
Il y a un vrai jeu de pistes. Il y a un vrai jeu de pistes scénaristiques, hein, que Brian Augustine a mis en place et que les dessins de Humberto Ramos viennent vraiment illustrer à la perfection. Hein. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire que c'est ça. Et Crimson, d'une manière générale, c'est ça. Dans Label Cliffhanger, là où on a deux concepts un peu, comme on l'a dit, pas forcément très bien construit. Là, on en avait un troisième qui, lui, par contre, est, je crois, scripté de A à Z, et ça sent dans la BD. Donc, lisez-le, quoi. Je sais que, bon, les intégrales, ça fait un peu comme le... Ça permet de binger un peu des vieilles séries. Mais il y a des pistes à suivre. Essayez de les suivre, essayez de vraiment voir où Brian Augustine et Humberto Ramos veulent vous amener. Parce que pour moi, c'est ça. C'est Crimson, c'est un voyage, quoi. C'est un voyage.
Et puis, en plus, là, ouais, c'est un omnibus. Il a combien, l'omnibus, à peu près?
J'ai pas le prix de l'omnibus, parce que du coup, je sais pas.
Mais voilà, l'avantage d'un omnibus, c'est que vous n'avez pas, comme nous, à attendre pendant 3 ans et demi, c'était assez rapide, au final.
Il est dans le prix des omnibus, quoi. C'est-à-dire, on est entre 30 et 40 euros, quoi.
Je pense qu'il y a de très fortes chances pour que quand vous commenciez, vous n'arriviez pas à arrêter.
Oui, bah, c'est le but d'ailleurs. C'est une série qui se lit très bien. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Moi, forcément, une petite tranche, mais d'un coup, c'est une série qui se lit très très bien et qui, pour le coup, scénaristiquement, n'a pas vieilli.
Ouais.
Et puis par contre, voilà, là, moi c'est un peu mon coup de gueule, les scènes d'exposition, là, la Marvel ou DC, 6 épisodes pour te raconter qu'une équipe se forme. Ouais. Là, on n'est pas du tout dans ça, on est vraiment dans quelque chose d'hyper efficace. Et c'est ça, je crois, qui fait que cette série a encore aujourd'hui marque et a sa place, quoi, et rééditée d'ailleurs.
D'ailleurs, le premier épisode, enfin tout le début en fait, c'est fait en très très peu numéros, je crois. En 3 numéros, c'est conclu, je crois. Ouais. Et puis après, on rentre vraiment dans la vraie histoire de l'élu.
Et ça, c'est quelque chose de bien. On a tendance aujourd'hui, voilà, on parle de narration décompressée aujourd'hui. Ben, bon, c'est très bien la narration décompressée. Parfois, ça peut bien fonctionner dans certains cadres. Mais là, maintenant, c'est devenu un gimmick un peu trop utilisé et qui, je pense, nuit à l'intérêt parfois de certaines séries qui globalement, développent en 6 ou 8 numéros, ce qui pourrait être fait en 3, quoi. Voilà. Donc, sur ce plan-là, Crimson, c'est de la bombe.
D'accord. Mais je crois qu'on a tout dit sur Crimson. On pourrait encore déblatérer à peu près 2h30, mais là, je crois que...
Le risque serait de spoiler.
Voilà. Et, mais on a tellement envie de vous spoiler, mais non.
On le fera pas.
Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci, Landel.
Merci à toi.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Et on est sur Facebook, Instagram, Twitter. Allez, je vous dis à bientôt. À plus. Ciao. We'll be right back.